7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on regarde au-dessus de la marmite et ça sent bon. Voilà, avec la bande des Afro-cookers en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI. Dans le studio, on va parler des aliments traditionnels aujourd'hui. Mil, sorgho, haricots, arachides, des ingrédients qui sont bons pour l'homme, bons pour l'agriculture, bons pour la planète. Mais ils sont de plus en plus délaissés par les jeunes qui les trouvent longs, compliqués à préparer. Alors comment les remettre au goût du jour ? Avec nos invités, vous allez découvrir ces aliments dans des recettes innovantes, alléchantes. Et un chiffre à retenir quand même, en Afrique de l'Ouest, 60% des emplois sont liés à l'économie alimentaire. Donc c'est pas du gadget. Je vous présente nos invités. Chef Anto, bonjour Anto.
Bonjour Emmanuel.
Anto Cocagne, oui. De votre vrai nom. Chef à domicile, initié par votre grand-mère au Gabon.
Tout à fait.
Fatou Meïté, bonjour.
Bonjour.
Traiteur événementiel.
Exactement.
Au Délices Gourmet. Des plats ivoiriens.
Ivoiriens.
Mais pas que.
Mais pas que.
Ouais. Rapprochez-vous du micro, voilà.
Ivoiriens, mais pas que. Et aussi beaucoup de pâtisseries qu'on essaye de métisser avec la culture européenne.
Et avec des farines pas forcément très habituelles. Aïssa Toumbaye, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Blogueuse sénégalaise. Le blog s'appelle...
Aïsto Cuisine, le monde aux saveurs d'Afrique.
Voilà, et évidemment, vous vous intéressez à des aliments traditionnels et comment en parler différemment à la nouvelle génération.
Exactement.
On sera aussi en ligne avec Agathe Diama au Festival du Mille à Niamey, au Niger. Elle est coordinatrice régionale de la campagne Smart Food, c'est-à-dire aliments intelligents. Elle nous expliquera ce que c'est pour l'Afrique de l'Ouest et centrale au sein de l'Institut de recherche sur les cultures tropicales dans les zones semi-arides. Mickaël Isé aussi, chef congolais à Londres, sera au téléphone avec nous. Et chez vous, les voisins et les voisines, dites-nous quelles sont vos préférences, vos meilleures recettes, des recettes aussi un peu nouvelles, vos questions pratiques aussi, hein, si vous avez envie de vous remettre à cuisiner différemment ces céréales traditionnelles, mil, sorgho, fenouil. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp. Et bien sûr, vous partagez vos photos, y compris sur Instagram. Si vous nous écoutez en direct, sachez qu'il y a aussi les images qui sont disponibles et la vidéo. Et c'est très dur à regarder, je peux vous le dire, parce que j'ai des gâteaux sous mon nez, réalisés avec des farines très inhabituelles. Ça va être dur d'aller jusqu'à la fin de l'émission.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin. 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins sur RFI.
Alors je vous lis quelques commentaires, hein, nos auditeurs, ils ont beaucoup rebondi sur le haricot, les haricots, mais alors pas tellement sur les farines traditionnelles et les céréales traditionnelles. Marc à Brazzaville, chef cuisinier depuis 15 ans au restaurant Céleste, il nous dit qu'il cuisine les haricots comme les aiment les Congolais, avec des tomates, de l'oignon, du poisson et du poivre. Voilà, bon bah rien de nouveau sous le soleil, hein,
non,
pour le moment,
d'accord.
Victor, moi je cuisine les haricots à la camerounaise en les mélangeant au maïs et autres condiments, on l'appelle kanchap. C'est comme ça qu'on dit.
Je connais pas cette façon de cuisiner les haricots. Donc il a les haricots avec farine de maïs.
Ouais.
D'accord. Non, je
et
connais pas cette recette là.
Et je peux aussi mélanger avec de la tomate fraîche à la façon tchadienne. Un voisin à Lomé a posté sur WhatsApp.
Bonjour la famille. Chez moi concrètement au Togo, à commencer par l'haricot. L'haricot est très fréquent dans notre alimentation. C'est ça qui fait remplir le ventre des petits le matin. Mais quant au milo sorgho, c'est réservé pour faire de la bouillie. Ce sont des céréales très riches. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez dans nos plats, vous ne trouverez que du riz ou soit des spaghettis. Ce sont des choses importées. C'est la colonisation, soi-disant mondialisation, qui ont fait que nous laissons nos céréales très très riches, qui peuvent nous aider à sortir de la malnutrition. Nous les laissons pour prendre des céréales importées pour remplir nos plats.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Et qu'est-ce que vous en pensez du message de ce voisin à Lomé, Anto, Fatou Meïté, Aïssa Toumbaye ?
Il a raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ces céréales traditionnelles sont abandonnées au profit de céréales qui sont importées. Et malheureusement, sur le continent, maintenant, les céréales importées souvent coûtent moins cher que les céréales locales, alors que les céréales locales, non seulement, comme on a dit au début, elles sont bonnes pour l'homme à cause de leur valeur nutritive, mais aussi elles font vivre les producteurs qui sont sur place.
Ouais, complètement aligné avec Aïssatou, effectivement. C'est vraiment des farines très riches, de grande valeur nutritionnelle. Et je pense que si les personnes ne savent plus réellement les cuisiner, et ils veulent aussi innover, donc c'est pour ça qu'ils ne les cuisinent pas. Donc,
donc encore une recette de la grand-mère. Oh bah non, alors
voilà, exactement.
Exactement. Encore de la bouillie. On en a marre de la bouillie. Avec le mil, on fait que de la bouillie. Maintenant, justement, on est là pour vous dire qu'on fait pas que de la bouillie.
Exactement.
Après aussi, il y a le problème, enfin, il y a le fait que la plupart maintenant des produits importés sont transformés, donc plus faciles à cuisiner. Et nous, nos céréales sont encore très brutes. Donc il faut savoir.
Très long à cuire, en fait.
Soit c'est long à cuire, ou justement on s'arrête sur la consommation de base, donc le plat de base, comme dit Anto, la bouillie, parce que c'est ce qu'on connaît. Et justement, ce serait intéressant de voir comment justement mieux apprécier ces plats-là, trouver d'autres méthodes peut-être de cuisson qui changent et où on peut gagner du temps. Et se rapprocher des autres produits importés.
Et ben c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Comment revaloriser ces céréales traditionnelles, ces aliments traditionnels, d'ailleurs au-delà des céréales, on a parlé des haricots. Nous sommes en ligne avec Agathe Diama. Bonjour Agathe.
Allô, bonjour. Bonjour de Niamey et bonjour au studio.
Eh bien, on est ravis de vous accueillir en direct à Agathe Diama. Vous êtes coordinatrice régionale à Bamako de la campagne Smart Food, c'est-à-dire aliments intelligents pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, au sein de l'Institut de recherche sur les cultures tropicales dans les zones semi-arides. Et vous êtes aujourd'hui à Niamey. Vous allez nous expliquer pourquoi, pour ce fameux festival du mil au Niger. Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'un aliment intelligent, Agathe Diama ?
Alors, un aliment intelligent, c'est dérivé d'un anglicisme qui est le smart food. C'est un aliment qui répond à trois critères. C'est-à-dire, il doit être bon pour le consommateur, il doit être bon pour la planète, mais aussi bon pour le producteur lui-même. Alors, je peux expliquer ça un peu, c'est-à-dire le consommateur, nous veillons à ce que ce soit des aliments nutritifs pour les consommateurs.
Oui.
Nous veillons à ce que le long de la chaîne de valeur, le producteur puisse en tirer bénéfice. Parce que notre organisation travaille beaucoup avec les petits exploitants agricoles. Et bon, donc, pour la planète, et au regard donc, de la variabilité climatique et des changements climatiques, et les céréales sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, les céréales qui sont adaptées à ce changement, à cette variabilité.
C'est-à-dire, par exemple, plus résistant à la sécheresse, aux fortes températures, notamment ?
Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, on est au Niger, justement pour le Festival international du mil. Et le Niger est un pays qui fait face à une grande sécheresse. Et vous remarquerez que c'est le pays où nous développons beaucoup le mil, parce que c'est l'endroit où nous pouvons procéder à toutes sortes d'expérimentations. Et la plupart des pays au Sahel sont en train en fait de rentrer dans cette phase où ils font face à beaucoup de sécheresse, à beaucoup de précipitations très aléatoires. Et aujourd'hui, on a la recherche de cultures qui peuvent s'adapter. Et à ce moment, le mil et le sorgho sont les plus résistants quand on parle de sécheresse.
Oui, mais voilà. Pourquoi finalement c'est pas plus cultivé ? Ça a été relativement délaissé, le mil et le sorgho ?
Alors ça, c'est peut-être une longue histoire aussi qui est liée au changement des habitudes alimentaires. Parce qu'on sait que dans le passé, ces aliments étaient très, très consommés et très populaires. Maintenant, en raison donc de nos modes de consommation, on s'est tourné vers d'autres types de céréales, notamment le riz et le blé.
Notamment et surtout le riz, en fait. Hein.
Voilà, qui sont très importés aujourd'hui donc en Afrique, c'est pas seulement au Niger, mais aussi à Bamako. Et dans d'autres capitales africaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le régime alimentaire de certains foyers, vous verrez que tous les jours, le riz est pratiquement consommé. Et donc, au détriment donc, de ces cultures traditionnelles qu'on trouve, parce que l'image aussi a changé. Et aujourd'hui, en milieu urbain, ça semble un peu passer de mode de consommer du mil. Certains ne savent pas aussi ou ignorent les valeurs nutritionnelles de ces cultures.
Et puis, et ne savent pas tellement comment les cuisiner de manière plus rapide, plus simple. Aujourd'hui, Agathe Diama, vous êtes à Niamey, donc c'est la première édition du Festival du Mille. C'est la journée d'ouverture aujourd'hui. À quoi ça va servir?
Alors, comme je le disais tantôt, le fait que le Mille ne soit pas vraiment très populaire, c'est lié aussi à un certain faible investissement qui est consacré de manière globale dans la culture. Les chaînes de valeur sont sous-développées. Et l'image qui est associée à cette culture. Donc aujourd'hui, on est avec le gouvernement du Niger qui a pris un fort engagement et sous l'égide donc de la première dame et qui aujourd'hui fait un appel vraiment politique très fort. L'ouverture du festival a lieu aujourd'hui et on a aussi un appel de la première dame à consommer local, consommer le mil, à consommer le sorgho qui sont des produits qu'on trouve localement. On a aussi un message fort du gouvernement du Nigérien, donc c'est vraiment une mobilisation, un appel donc à un retour à ces cultures qu'on trouve sur place. Et pourquoi nous choisissons le Niger? Parce que le Niger est l'un des pays les plus confrontés à la sécheresse et c'est vraiment un lieu, par exemple, où on peut vraiment faire appel, lancer ce message à tous les consommateurs, les producteurs et les investisseurs.
Alors, donc, il y a plusieurs types de problèmes, problèmes agricoles et puis problèmes dans l'assiette du consommateur. Est-ce qu'aujourd'hui, du côté du consommateur, au bout de la chaîne, vous sentez une prise de conscience, un intérêt, une curiosité ou pas?
Alors, de ce que nous avons comme expérience déjà avec nos partenaires, il y a 2 ans, nous avons commencé à travailler avec des chefs, avec des blogueuses culinaires, dont certaines d'entre elles sont sur le plateau. Nous avons remarqué qu'il y a un engouement. Il y en a qui demandent aujourd'hui à savoir où est-ce qu'on peut trouver ces produits. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'étaient vraiment pas au fait des valeurs nutritionnelles de ces cultures. On a aussi le consommateur urbain qui se réveille et qui veut savoir comment est-ce qu'il peut consommer de manière plus rapide ces cultures. Parce que vous savez que la transformation du mil et du sorgho, c'est un processus assez long.
Ouais. Et est-ce que l'argument du consommer local n'est pas finalement l'argument le plus fort plutôt que la valeur nutritive où franchement on ne voit pas un bénéfice honnêtement à court terme, mais sur le fait de réinvestir sa propre économie dans son pays quand on voit le chômage des jeunes, la faillite des filières agricoles, etc. Est-ce que ce n'est pas l'argument le plus précieux pour le consommateur?
Justement, c'est un argument précis aussi, comme je parlais par exemple du producteur. Si on est capable de développer vraiment la chaîne de valeur, tout le monde en profite, du producteur jusqu'à l'assiette. On créera de l'emploi pour les jeunes, on créera aussi de l'emploi dans le secteur de la restauration et c'est vraiment un marché ouvert. Mais aujourd'hui aussi, l'argument de la nutrition est un argument assez important. Nous travaillons par exemple avec des organisations, avec des communautés, où nous faisons vraiment des recettes enrichies qui sont aussi dispensées, par exemple, dans les centres de santé, qui aident à lutter contre la malnutrition.
Oui, pour les enfants, pour la petite enfance voilà. Notamment. Agathe Diama, restez encore une petite minute en ligne avec nous. Aïssa Toumbay, Fatoumaïté, chef Anto, qu'est-ce que ça vous fait que blogueuse, chef, cuisinière, d'être associée finalement à un vaste mouvement, d'être consultée pour œuvrer pour des filières agricoles d'une certaine manière, Aïssa Toumbay, vous en tant que blogueuse?
Moi, c'était un plaisir. Donc, moi, j'avais fait la première campagne de Smart Food. Donc, c'était vraiment intéressant déjà de faire ce travail de recherche sur les produits parce que il faut savoir. Enfin, on les connaissait. Je connaissais ces produits, mais comme tout le monde, c'était surtout les utilisations primaires. Et ça m'a fait énormément de bien de rechercher. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé avec ma maman. Donc, par exemple, il y a une recette sur le sorgho soufflé. Donc, moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire du sorgho soufflé comme du pop-corn. Donc, en parlant avec ma mère, elle m'a dit, mais nous, quand on était petites, on mangeait des sorgho soufflés comme du pop-corn.
J'avais complètement oublié ça.
J'ai fait, mais avant, mais c'est génial.
Et donc, comment vous faites alors à la poêle?
À la poêle, comme les pop-corn. Donc, on met les graines de sorgho. Et
on fait sauter à sec dans une poêle.
Quand la poêle est très chaude, sinon avec un peu d'huile. Et paf, en plus, d'ailleurs, dans la recette, je montre bien comment ça pop. Et donc, c'était génial. Et en commentaire, on voyait les gens qui disaient, mais waouh, mais c'est bon, on va plus manger de pop-corn. ce sera maintenant du sorgho soufflé. Et pour les enfants, c'est tout petit, c'est super mignon. Donc, c'est vraiment des choses comme ça que j'ai adoré découvrir.
Et qu'on peut mettre aussi dans du lait le
matin. Donc voilà, on peut faire comme des muesli avec, du granola, utiliser comme des céréales soufflées. Donc on peut faire énormément de choses et c'est des choses qui se sont perdues malheureusement avec le temps.
Fatou Maïté.
Oui, tout à fait. Surtout que même toutes les personnes, enfin toutes les blogueuses culinaires aujourd'hui, elles ont aussi un rôle de communication. Oui, de remettre au goût du jour. Je pense qu'on a un rôle vraiment très important à ce niveau-là, avec aussi tout ce qui est développement des réseaux sociaux. On peut partager et remettre au goût du jour effectivement toutes ces recettes, toutes ces semoules, même dans le milieu événementiel. Lorsqu'on fait des mariages africains, effectivement, c'est une manière aussi de valoriser ces produits.
Valoriser ces céréales traditionnelles qui sont considérées comme pas hyper sexy, mode actuelle. Quand on arrive à les valoriser aussi à l'extérieur du continent africain, Anto, ça change le regard sur le continent africain ou pas forcément le va-et-vient ?
Ah si, ça change totalement. Surtout que nous, en tant que communicantes, comme disait Fatou, on a un rôle de recherche que les particuliers ne feraient pas forcément. On est un peu des chimistes parce que justement, moi, quand on m'a contacté, quand Madame Diamant m'a contacté pour justement cette campagne Smart Food, je me suis mise à faire des tests à la maison, voir ce qui marche, ce qui fonctionne moins bien. C'était des céréales aussi que je connaissais de nom, mais que moi-même, je n'avais jamais utilisé parce que je viens du Gabon. Et en dehors du riz, on n'a pas le mil, on n'a pas le sorgho. En dehors du mil et de l'arachide, des haricots et de ces céréales-là, on n'a pas le mil et le sorgho. Et je me suis...
Vous avez du fonio ou pas ?
Non, on n'a pas de fonio.
Parce que c'est un climat qui est trop humide au Gabon ?
C'est un climat qui est trop humide. Et du coup, ça m'a poussée à m'intéresser à d'autres cultures. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces céréales sont sans gluten et en Europe, c'est quelque chose qui est très tendance. Et du coup, quand moi j'ai des clients qui me disent nous, il nous faut sans gluten et que je leur fais goûter des cupcakes ou des fondants au chocolat ou des cakes salés à base de farine de sorgho ou de mil et qui me disent mais c'est quelle farine, on connaît pas, et je leur dis mais ça sont des farines africaines, bah tout de suite ils se disent ah ben en Afrique vous avez ça, je pensais que vous mangez que du riz. Et ils disent bah non, on mange pas que du riz justement. Ouais.
Agathe Diamant, on ne mange pas que du riz et on va découvrir beaucoup de choses lors de ce festival, du premier festival du mil à Niamey. J'imagine que les agriculteurs aussi sont venus présenter leurs produits.
Ah oui, on a toute la chaîne de valeur vraiment représentée ici à Niamey. On a des sessions de dégustation, on a des ateliers culinaires, on a des démonstrations et on a ceux qui amènent leurs variétés du village. On a aussi les transformateurs. C'est vraiment un festival, comme on le dit.
Ouais.
Et je crois que les gens ont commencé à se régaler et à découvrir.
Ouais.
Maintenant, tout à l'heure, j'étais dans mon stand et quelqu'un m'a lisé mes flyers. Il a lu « Oh, c'est bon pour les diabétiques ». Là, il a commencé à me poser beaucoup de questions. Donc, c'est aussi un espace où on communique vraiment, comme le disait Anto tout à l'heure, c'est des aliments aussi qui sont sans gluten. On sait que c'est important en Europe. Mais aussi en Afrique, on lutte aussi contre le diabète, on lutte contre les maladies cardiaques. Donc il y a
Parler de ces céréales traditionnelles, c'est parler de l'économie, de l'agriculture, de l'emploi, bien sûr de l'emploi des jeunes, de ces filières agricoles,
de la santé
et évidemment des bons petits plats. Et là, on va quand même revenir au sujet de base, c'est qu'on a envie de se régaler dans l'émission. Merci beaucoup Agathe Diamant d'avoir été en ligne avec nous. Très très bonne journée, très bon festival, donc à Niamey, festival du mil. Merci à vous.
Au revoir, bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille des auditeurs. Évidemment, si vous avez envie de partager vos recettes, même si elles ne sont pas complètement revisitées, on a nos blogueuses, on a nos cuisinières, nos chefs qui sont dans le studio, qui sont là pour vous challenger aussi un petit peu. Et vous dépoussiérez tout ça. 33 1 84 22 71 71. Christophe est à Lomé au Togo. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour Emmanuelle, bonjour Lélie.
Bonjour Christophe. Alors Christophe, on va le dire tout de suite, hein, parce que comme ça évitera de vous d'avoir une pluie de critiques des filles dans le studio. Vous n'êtes pas cuisinier de métier.
Oui, exactement.
Mais vous cuisinez.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes un mordu de haricots, vous avez dit au standard.
Voilà.
Donc.
Oui, en fait, oui.
Alors ça veut dire quoi dans la marmite ?
Pour la préparation des haricots, il y a un plat spécialement que j'aime. Oui, c'est les haricots avec du jus de la noix de coco râpée.
jus de noix de coco râpé. Et attendez, c'est pas le lait de coco.
Oui, le jus extrait, en fait, le lait.
Alors, c'est le lait de coco.
C'est un dessert, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça, c'est le lait de coco.
Ah, c'est un gâteau de haricots.
Un gâteau, d'accord.
D'accord.
Et donc, comment vous faites?
Bon, on met l'haricot sur le feu.
À bouillir?
Juste après. Oui, ça bouillit les racines. Juste avant, juste à 15 minutes de cuisson, on la laisse tout seul. Maintenant, on prend la coco râpée, le lait ou bien le jus qu'on obtient. On le mélange avec le haricot et on le met sur le feu.
Un peu comme un gâteau de riz.
Non, ça
prend, c'est pas de gâteau de riz. Oui, c'est avec
garlic.
Oui, c'est ça, mais c'est un peu le même principe.
C'est le même principe.
Christophe, je suis désolée, la ligne est très mauvaise là à Lomé, on n'a pas de chance. Hein, mais si vous pouvez nous envoyer la recette détaillée, on va la poster sur WhatsApp, sur nos réseaux sociaux. Vous le faites, Christophe?
C'est
super, très bien. Des haricots à la noix de coco, qui
dit je connaissais pas.
Oui, je connaissais pas.
C'est une belle découverte.
Je connais les haricots une fois qu'ils sont cuits qu'on mixe pour avoir une pâte et tout ça et qu'après on utilise comme base pour sucrer les gâteaux. Mais comme ça, les laisser entiers avec la noix de coco, je connaissais pas. Comme quoi on en apprend toujours.
Mais oui. Mais en même temps, qu'est-ce qui est pas délicieux avec de la noix de coco,
franchement.
Donc c'est un peu facile parce que tout devient extraordinaire avec de la noix de coco.
Oui.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Il y a de la recette dans l'air. Comment sublimer des aliments traditionnels africains, notamment et surtout les céréales sorgho, mil, fonio, j'en oublie?
Non, on a aussi les haricots, les légumineuses, en fait toutes les légumineuses comme les lentilles, on a diverses sortes de haricots, tout ça, ça rentre.
Et on attend vos appels juste après Gaëlle Faye, Pili Pili sur un croissant au beurre. Eh ben oui, on y revient quand même.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Il voulait quitter la routine, celle de son père qui étiole les rêves au large des paupières, enfourcher son vélo, repartir à zéro, petit gaune de Lyon aux oripeaux d'évasion, partir. Non pas pour voir de nouveaux lieux, mais voyager, pour ouvrir de nouveaux yeux. Orpailleur d'horizon, y'a que des hôtels mille étoiles, pour les clochards célestes qui ne s'embarrassent pas d'un toit, qui croient sans beurre, qui français qui flâne, lisait qui est roi, qui chantait Bob Dylan. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays. Il pédale et de guerre en maladie. Il pédale, s'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire. Elle avait fui son pays, les pogroms et la guerre. Et la terre des ancêtres était un vaste mouroir. Et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. De sa chambre au vert papier peint, recouvert de posters de salut les copains, était son antre où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris, en attendant le bus sous un arbre en fleurs. Son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre.
Pili pili pili
sur un croissant au beurre.
Ça y est, vous êtes partante pour la recette.
On est bien.
On est en compagnie de Fatou Beïté Aïssatou Mbaye, chef Anto, cuisinière, blogueuse, traiteur à domicile. Dans quelques instants, on sera en ligne avec Londres, Michelisé. Ah ben ça y est, on l'a retrouvée. On n'a que des problèmes de ligne téléphonique aujourd'hui, mais les recettes n'en seront pas moins goûteuses. Bonjour Michelisé.
Bonjour.
Vous êtes chef pour des événements privés à Londres. Vous êtes à Londres depuis 12 ans. Vous êtes congolais. Oui. Comment on fait pour faire découvrir la cuisine congolaise à Londres?
Ah ben, on travaille beaucoup.
J'ai l'impression, parce que vous êtes dur à joindre. Hein. Et surtout que vous ne reculez devant aucun obstacle. Vous foncez sur des recettes traditionnelles.
Oui. En fait, ce que je fais, d'apporter une petite touche différente à...
Allô, allô, Mick Élisée est-il toujours en ligne avec nous à Londres? Bon, bah décidément, on n'a pas de chance. On essaye de vous rappeler, hein. Mick Élisée, il va nous donner des recettes de risotto avec du mil. Ça y est, on a retrouvé Mick Élisée. Donc, j'étais en train de vous demander comment on fait pour faire découvrir la cuisine congolaise à Londres.
Ok.
Bon, bah décidément, il y a un problème. On l'aura pas, la recette. on va couper, on essaye carrément de rafraîchir la ligne téléphonique. Est-ce qu'on a Souleymane qui nous appelle du Burkina Faso? Bonjour Souleymane.
Bonjour Emmanuel.
Alors chez vous, on dit quoi quant aux recettes traditionnelles, avec les aliments traditionnels, les céréales? Est-ce que vous êtes très partant pour ces bouillies ou est-ce que vous cherchez à les revisiter?
Bon, moi je suis partant pour les recettes traditionnelles. Mm-hmm. Puis ça concerne même la culture. Et puis c'est riche. Donc ça concerne toute sa nature, ouais, et puis ses éléments nutritifs.
Oui, vous aviez envie de nous parler plutôt de haricots, de...
Oui, c'est ça. C'est du taux d'haricots.
Ah, du taux d'haricots. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est exactement le taux d'haricots?
Bon, le taux d'haricots, c'est un plat spécifique des Samo, une ethnie au Burkina Faso. Donc, on fait le taux d'haricots à base des haricots. Alors, on enlève d'abord le son d'haricots là. On trempe l'haricot dans de l'eau pendant une heure.
Oui, pour le ramollir.
Voilà, on enlève maintenant. On met ça sur le feu dans une marmite. On ajoute un peu de sel, du cube à préférence. Un peu de persil.
Du cube, oula, ça commence mal là, Souleymane. Alors là, les filles autour ne sont pas d'accord avec le cube. Bon, alors attendez, sur le cube, là, petit commentaire.
Non, on dit de préférence. Non.
Moi, quoi, non. Surtout quand on me dit tradition, j'enlève le cube parce que ça ne fait pas partie de nos traditions.
Exactement.
Ouais, on met quoi à la place?
Le sel, il l'a dit en plus, il a dit du sel après, de préférence du cube.
Il y a plein d'autres...
Oui, on a ce qu'on appelle, je sais, au Sénégal, ils appellent le nokos.
Le nokos, qui est assaisonnement.
Qui est une sorte de pâte de condiment qui donne beaucoup de goût. Et
qu'on peut conserver d'ailleurs.
Et qu'on peut conserver, qu'on peut congeler, conserver au frais. Et qui remplace le cube, mais les yeux fermés.
Souleymane, désolé, hein, c'était la levée de bouclier dans le studio.
On a tous fait les yeux.
Voilà, donc les haricots dans l'eau bouillie, après avoir été ramollis, etc. D'accord, cuisinés avec du. Bon, et ensuite.
On a perdu.
Souleymane, est-ce que vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui, je suis toujours là.
Alors. Et bien, poursuivez, Souleymane, la suite de la recette.
Voilà.
Le taux d'haricots.
Puisque le cube maïs, il a dit de préférence. Sinon, à la base, il n'y a pas de cube maïs.
Ah, voilà, on est d'accord. Ah.
Voilà. C'est ça, il dit de préférence, là.
Okay. Et
voilà,
ensuite.
Sinon, c'est du sel. C'est avec du sel.
Oui.
Un peu d'oignon. Un peu de potasse pour faciliter la digestion.
Potasse.
Voilà, pour la digestion.
Pour la digestion.
Voilà, sous quelle forme cette
potasse? Sous forme de
cailloux, un cristal.
D'accord.
Voilà, quand le tout va mijoter maintenant, quand la ricola va s'enlever une pâte, on met un peu de farine de maïs.
Oui.
On mélange le tout, on va avoir maintenant une pâte homogène.
D'accord.
Voilà, maintenant, on sert ça maintenant avec un peu d'huile.
Donc, en fait, c'est un haricot qui devient écrasé, hein,
oui,
c'est ça,
ça devient...
avec de la farine de maïs.
C'est ça même.
Ça peut être sympa. Ouais.
Voilà, maintenant, on sert le plat avec l'huile de... Naturellement, c'est avec l'huile de beurre de karité.
Ah, l'huile de beurre de karité, d'accord.
Voilà, mais comme à l'heure, là, l'huile d'arachide, et bon, on peut servir avec ça. Ouais. Les huiles,
est-ce que c'est encore un plat qui a du succès, honnêtement, Souleymane?
Oui, ça a du succès.
Bon, ça...
Mais la région, en tout cas, ça a du... même hors de la région, même à part, un peu partout au Burkina Faso, on rencontre le plat là.
Ouais.
Mais c'est un accompagnement, c'est pour manger avec des sauces?
Non, c'est tout comme ça.
Tout comme ça, ok.
Voilà.
D'accord.
C'est le dîner.
D'accord.
Alors okay. En fait, ça, c'est le soir, c'est le repas du soir.
D'accord.
Je ne sais pas.
Et donc, avec la potasse, pas de problème de digestion, hein, si j'ai bien compris.
On dort
bien
après.
Ok, merci beaucoup, Souleymane, de nous avoir appelé de Kiembara, c'est ça? Vous étiez à Kiembara, dans l'ouest du Burkina.
Voilà, c'est ça.
Super. Merci hein, de nous avoir téléphoné. Vous pouvez continuer de nous appeler. Des recettes remises au goût du jour ou des recettes traditionnelles, en tout cas à base d'aliments traditionnels africains. 33 1 84 22 71 71. Est-ce qu'on a récupéré Mick Élysée à Londres ? Bonjour Mick Élysée.
Allô, bonjour.
Alors, vous êtes donc chef pour des événements à Londres, installé depuis 12 ans. Vous êtes congolais et on attendait avec impatience la recette que vous avez mise au point de risotto, recette italienne à la base, de risotto avec du mil.
Oui, c'est du riz, un jollof risotto en fait.
Oui.
En fait, du coup, c'est un mélange de jollof rice, qui est un très beau consommé dans, vers le Nigeria, le Ghana et le, au Sénégal, c'est le sebiam.
Ouais.
Parce qu'on peut prendre ça pour du risotto, pour du jollof rice en fait.
Mm-hmm.
Donc j'ai essayé de faire ce mix-là de la.
Donc vous remplacez le riz par du mil, hein, on est d'accord.
Par du mil, voilà, oui. Et c'est extraordinaire. c'est extraordinaire parce qu'en fait, ça fait un petit mélange des saveurs africaines et des saveurs italiennes en fait. Parce qu'à la base, le risotto c'est italien. Mais vu que c'est fait avec du mil et j'ai utilisé avec des épices africaines, du coup, le mélange est extraordinaire.
Ça donne un goût très différent ? Parce que moi, je ne connais pas. Hein.
Un goût très différent, oui. On reconnaît toujours la technique du risotto, mais le goût, il est vachement différent parce que le mil, ça n'a pas le même goût que le riz. Donc, du coup, le goût, il est différent.
Mais comment vous faites pour avoir le petit côté crémeux qu'on a dans le risotto ? Parce qu'on utilise une certaine forme de riz, un riz rond qui en libérant de l'amidon, forme de la crème. Comment vous avez ça avec du mil ?
Alors, c'est très simple. En fait, c'est juste comment on le mélange, en fait. Vous savez, quand on fait le risotto, il faut surtout pas arrêter de tourner. C'est ce qui apporte ce petit crémeux avec le beurre qu'on y met et le parmesan. Donc, j'ai essayé de faire un peu pareil avec le jollof.
Ouais.
Mais vu que le jollof, on y met de la tomate, en fait.
Ouais, d'accord.
La tomate, après, on mixe avec les légumes. Du coup, le fait de le mélanger tout doucement et tendrement, du coup, le mélange est très bien fait. Il est très crémeux.
D'accord. Et les Anglais à Londres, ils disent quoi, alors ?
Pardon ?
Les Anglais à Londres, ils disent quoi ?
Oh, ils adorent. Ah, ils adorent.
Nous aussi, on aimerait bien adorer.
Mais c'est fait avec. Enfin, quelle partie du mil, c'est avec les graines, les brisures
Avec les graines. Avec les graines.
D'accord.
C'est vraiment pour rappeler le côté riz, en fait.
D'accord, donc,
c'est fait avec les graines.
Vous faites aussi un confit de mil ?
Oui, un confit de mil. Alors là, en fait, je cuis le mil à l'étouffer avec des feuilles de banane.
Ah, et d'accord. Donc le mil enveloppé dans des feuilles de banane.
Enveloppé dans de feuilles de banane et cuit à 62 degrés.
Au four ?
Oui, au four ou au bain-marie.
Ouais.
Donc je cuis tout doucement. Je mets pas mal d'épices aussi parce que j'utilise beaucoup les épices. Et c'est extraordinaire parce que là, le grain, il est très fondant. Il est très fondant, mais à l'extérieur, il garde son côté craquant, en fait.
Ouais, c'est une cuisson vapeur très traditionnelle.
Comment on ferait pour le couscous traditionnel, en fait Parce que moi, je reviens de Mauritanie et j'ai appris à faire le couscous de mil et ils le cuisent à la vapeur, justement. Et c'est vrai que le mil a ce côté... croustillant en fait à l'intérieur, à l'extérieur
et fondant
à l'intérieur.
Merci beaucoup Mick Élysée d'avoir été en ligne avec nous. On a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent au 33 1 84 22 71 71. Justement, vous parliez du couscous, vous revenez de Mauritanie, Anto. Chantal nous appelle de Dakar, elle veut parler du couscous sénégalais avec du petit mil. C'est bien cela Chantal ?
Oui, c'est bien ça, je vous salue.
Oui, soyez la bienvenue Chantal.
Merci.
On vous écoute.
Voilà, je vais vous parler du couscous à base de mil. Le sac en terreur.
Oui.
Après avoir fait moudre, ça se... Avec de l'eau, on fait les petites graines avec la main. C'est ça que beaucoup de femmes aujourd'hui ne savent pas faire directement. Donc, ça va être de petites graines toutes fines qu'on tamise avec le deuxième tamis, tamis sankala en wolof. Et on laisse fermenter un peu. Normalement, on laisse fermenter jusqu'à ce que l'eau devienne. Et ensuite, on passe à la vapeur. une première fois qui est très importante, il faut que ce soit vraiment bien passé à la vapeur sans aucune trace blanche pour faire vraiment la meilleure qualité. Et après avoir pilé un peu par le filon, on tamise avec le troisième niveau de tamis et on repasse à la vapeur.
C'est long.
On laisse reposer. Ah bah ouais, c'est ça.
Alors, vous avez entendu les filles dans le studio, là. Elles disent « c'est long, c'est long ».
Oui, c'est long, c'est long. Ouais. Souvent, maintenant, c'est je me dis que faire. Beaucoup ne mangent pas le couscous sénégalais parce que la façon de le préparer est assez long.
Combien de temps vous mettez pour préparer un couscous sénégalais, là, avec toute cette technique, notamment de d'effritage de la semoule, hein, avec les mains?
Oui, ça dépend de la quantité. Si c'est peut-être 2 kilos, moi je peux faire ça. Je peux terminer le fait de faire les graines en 20 minutes. Mais c'est que j'ai l'habitude, j'ai appris il y a longtemps, je connais, je fais souvent.
Voilà.
Mais beaucoup de femmes ont vraiment cette difficulté-là.
Ouais.
C'est le frein, justement.
Oui.
Ouais. Et après ça, il y a la sauce qui va avec. De préférence, cueillie. De nous au village, ce que j'ai connu, ce que j'essaie de vivre aujourd'hui avec mes soeurs et tout, nous on mange ça régulièrement, même à Dakar, même ceux qui sont en France au coup.
Alors s'il y avait un argument pour décider, parce que Chantal, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes à la retraite, vous avez du temps pour cuisiner, mais s'il y avait un argument là pour remettre au goût du jour le couscous sénégalais et convaincre les jeunes, qu'est-ce que vous diriez là aux jeunes qui nous écoutent, les jeunes blogueuses?
Mais il y a des femmes qui font ça.
Oui, il y a le couscous pré-cuit.
Il y a des femmes qui font ça. On trouve ça dans les marchés. Souvent, ce n'est pas comme moi, je les préférerais.
Oui, c'est clair.
C'est vrai, il y a les couscous maintenant en sachet pré-cuit. Il suffit juste de mettre comme de l'eau, comme la semoule qu'on retrouve dans les supermarchés. On met de l'eau et puis ça gonfle. Et puis, ou on fait cuire idéalement à la vapeur.
Ouais. Alors pour la recette, la vraie recette de Chantal, évidemment on pourra vous contacter, on pourra donner vos coordonnées hors antenne, et puis sinon le mieux, hein, vous demandez à quelqu'un de votre famille, vous nous postez directement la recette, on la mettra sur Instagram et sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Je vous lis le message de Laurine à Dakar également, elle est blogueuse culinaire, originaire du Cameroun. On l'a au téléphone. Eh bien Laurine, voilà, bonjour, soyez la bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup, bonjour à tout le monde.
Bonjour Laurine.
Blogueuse culinaire, donc camerounaise, installée à Dakar.
Exactement, c'est
donc,
ça.
Donc, vous allez nous parler du gari.
Oui, je vais vous parler du gari ou encore du tapioca. Au Cameroun, on l'appelle beaucoup plus tapioca, mais c'est beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, notamment ici au Sénégal, qu'on appelle gari. Voilà.
Donc,
en fait, oui, allez-y.
Oui, non, allez-y. Dites-nous bien les ingrédients pour le gari.
D'accord. Alors, en fait, le gari ou le tapioca, c'est juste du manioc qui a été séché, c'est-à-dire que du manioc qui a été réduit en poudre et séché. Voilà. Au Cameroun, on a deux versions. Il y a le blanc, parce que justement, le manioc, il est blanc. Donc, on le fait sécher et après, on le vend dans des sachets, en boîte. Et il y a l'autre version qui est plus populaire au Cameroun. On y ajoute de l'huile de palme pour que ce soit de couleur jaune. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas pu poster la photo pour que vous puissiez de voir à quoi ça ressemble. Donc, et c'est cette version-là qui est un peu la plus consommée au Cameroun, si je pourrais dire. Et c'est de celle-là dont je vais vous partager la recette. C'est une des recettes, une des façons qu'on utilise pour la consommer au Cameroun. C'est-à-dire qu'on la fait, on fait sauter avec des légumes et des crevettes ou bien du poulet ou des émincés de bœuf. Voilà. Alors, c'est très simple pour la recette. C'est-à-dire que si vous avez du gari, vous le tamisez un peu parce que parfois, il a beaucoup de résidus qu'on ne peut pas utiliser. Donc, quand vous le tamisez, maintenant, vous pouvez découper du poireau, des oignons. Vous faites revenir dans un peu d'huile. Ensuite, vous mettez un peu de tomate découpée. Vous faites bien cuire. Et après cela, vous allez rajouter maintenant le gari. Quand la tomate aura cuit avec le poireau et les oignons, vous allez rajouter le gari. Vous allez bien mélanger. Vous rajoutez de l'ail écrasé ou découpé selon votre choix. Et vers la fin, quand presque tout est cuit, vous mettez maintenant vos crevettes que vous aurez fait revenir, ou bien votre poulet que vous aurez fait revenir, bien évidemment, que vous aurez mariné, hein, à votre guise. Sinon, moi, en général, j'aime bien mariner avec du poivre, du cumin et du paprika, et un peu de sel. Voilà.
Super, donc, ça a l'air délicieux. Merci beaucoup, Laurine, de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer de nous téléphoner, même s'il nous reste que quelques minutes. 33 1 84 22 71 71. Alors, le gari n'est pas un plat en menacé d'extinction, hein. C'est pas à proprement parler le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de ces céréales que l'on a tendance à avoir un peu la flemme parfois de cuisiner. Le sorgho, le mil, le fonio. Vous, les filles, Chef Anto, Fatou Meïté, Aïssatou Mbaye, vous utilisez beaucoup ces céréales en farine, d'abord parce qu'il n'y a plus le problème de la cuisson. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du sorgho, par exemple?
Avec du sorgho, par exemple, moi je fais mes fondants au chocolat. Mes fondants au chocolat, je remplace la farine de blé par de la farine de sorgho.
Ouais, si vous avez la vidéo, vous regardez l'émission en direct en vidéo, donc, il est là, le fondant au chocolat.
Non, ça c'est le produit de Fatou. là, par exemple, j'ai fait des financiers à la banane avec de la farine de mil. Et ce qui est intéressant ici en Europe, c'est que ces farines-là, on les trouve beaucoup dans les magasins bio, et qui sont vendues à prix d'or, alors que chez nous, ça coûte pas grand-chose. Ce qui fait que quand j'y vais, si aussi je sais quelqu'un qui y va, je dis ramène-moi, parce que en fait, c'est très demandé.
Sur la pâtisserie, ces farines-là, donc farine de mil, farine de sorgho,
avec l'arachide, la cacahuète ou les haricots, on peut faire aussi des pâtisseries.
Ça pose pas de problème de, je veux dire, il y a moins d'élasticité qu'avec le blé.
Ou de texture. Pour faire de la pâtisserie,
oui. En termes de texture.
En termes de texture, surtout sur tout ce qui est les pâtes levées, tout ce qui est brioche, croissant, choses comme ça. Parce qu'en fait, le gluten, en fait, est une matière, en fait, qui permet d'avoir un réseau. Ouais, d'élasticité, un réseau, enfin, on va dire un réseau glutineux donne tout ce qui est le
bien
levé. Et ces farines-là ne permettent pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
il faut trouver des astuces
où on mélange avec d'autres farines qui permettent.
C'est pour ça qu'il faut aller voir vos recettes. Recette de cheesecake saveur baobab, c'est Aïssatou?
Oui, ça c'est moi. Oui, en fait, le cheesecake saveur baobab, alors en fait, donc la base du cheesecake. D'habitude, on prend soit du spéculoos qu'on écrase. Alors moi, je fais du mbouraké avec. Donc, le mbouraké au Sénégal, c'est une friandise qu'on mange, on donne aux enfants et qu'on fait avec du pain rassis. Donc c'est du pain qui a duré, qu'on pile, on fait passer au tamis, on mélange avec de la pâte d'arachide et du sucre et on obtient une sorte de crumble cru. Et c'est ça qui est à la base de mon dessert. Et après, pour le cheesecake, ce sera du fromage avec un peu de mascarpone et la poudre de baobab qu'on mélange pour avoir une texture qui sera presque... En fait, c'est un cheesecake sans cuisson.
Ah bon?
Donc, oui.
Ah, vous le faites?
C'est un cheesecake frais.
Ouais.
Donc, le fromage, ce sera du fromage frais plus du mascarpone qu'on mélange. Et la base du biscuit, ce sera le bourraquet dont j'ai parlé. Et finalement, on a un cheesecake.
Et le petit goût acidulé du baobab,
exactement.
Très riche en multivitamines. Et je vous lis quelques messages. Emmanuel, il est tchadien, il dit chez moi au-dessus du Tchad, le sorgho est très apprécié. Les paysans le cultivent en août et septembre. C'est une période compliquée pour le climat. Et du coup, moi, je fais du couscous de sorgho avec de la carpe.
Avec de la carpe, bon, oui.
Ça.
Ouais. Tout à fait. Ouais.
Exactement.
Joseph au Cameroun, farine de manioc plus eau plus purée de banane mûre, vraiment besoin de rien d'autre. Mokhtar, à Dakar au Sénégal, je m'appelle Mokhtar Ba, je suis artiste photographe, rien ne remplace le quinqueliba au lait avec des beignets de dougoupé.
Oui, 2000. Ouais, les beignets d'Ougouf, c'est les beignets à base de farine de mil.
Alors ça, moi, je
ne
connaissais pas, oui, le quinqueliba, bien sûr, mais donc c'est à base de farine de mil. Hein,
exactement.
Ça. Mon repas, le matin, beignet à base de mil, à midi, le tiboudienne au mil et une saveur avec le riz de la vallée du fleuve Sénégal, bah, bien sûr, bien sûr. Et le soir, un bon dîner avec le couscous à base de mil au poulet du pays avec de la sauce à base de feuilles mboum.
Oui, c'est des feuilles de moringa.
Ah bah oui, c'est du moringa.
Oui, non, parce que mboum en
d'un pays à l'autre, ça change de nom. Hein.
C'est moringa, c'est ça.
Et ça fait dormir en plus, donc c'est pas mal pour le soir. Et il termine, miam.
Bah ouais, bah, on le suit.
C'est pas... Bien sûr, en plus, tout un repas comme ça, toute la journée à base de mil.
Babacar nous appelle, on prend un dernier auditeur, il nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Babacar.
Bonjour, c'est Boubacar de Nouakchott.
Alors, cette émission est incroyable pour redécouvrir un patrimoine souvent menacé, patrimoine culinaire africain extraordinairement riche. Une recette à base de nénuphar séché, vous voulez nous donner? Il vous reste 2 minutes, Boubacar. Vous êtes prêt?
Mais oui, je suis prêt depuis ce matin, voilà. Mais je vous assure que c'est un plat, c'est une recette extrêmement prisée ici. Vous savez que nous habitons sur la vallée des fleuves, nous avons beaucoup de bras d'eau et nous mangeons beaucoup naturel et bio. Mmh. Bon voilà, les nénuphars, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le fruit et il faut les sécher. Quand on les sèche, il faut après les piler et récupérer les grains. Mmh. Quand on récupère les grains, il faut les décortiquer à nouveau. Mmh. Et après ça, on prend le poisson, c'est à base de poisson ou de viande. Mais nous, on le fait à base de poisson. Mmh. Il faut préparer le poisson comme on prépare le tchéboudienne au Sénégal, en ajoutant des légumes, en ajoutant des condiments, en ajoutant tout ce qu'on veut. Et après, quand tout sera cuit, il faut retirer le poisson et les légumes. À la place, on met les grains de nénuphar.
Et ça ajoute quoi, ces graines de nénuphar écrasées comme goût? Ça ressemble à quoi?
Ça ressemble à... C'est des tout petits grains qu'on... C'est comme du mil, comme des graines de mil, mais c'est tellement petit qu'après l'avoir décortiqué, il faut le mettre dans la marmite. Après avoir retiré le poisson.
Ça remplace de riz, en fait.
Voilà, ça remplace... C'est comme on prépare le riz, c'est comme ça qu'on le prépare.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
C'est comme ça qu'on le prépare.
Vous connaissez
et
les...
Ensuite,
oui, allez-y, on vous laisse terminer.
Et ensuite, les nénuphars, les racines de nénuphars, c'est comme des petites patates. Alors, on les récupère, et voilà, c'est comme des petites patates. On les récupère et on les fait bouillir, comme on boule les pommes de terre.
Ah d'accord.
On les distribue aux enfants.
Donc,
et ensuite les racines, on les fait sécher aussi. Et après, on les pile. Les racines de nénuphars constituent un très bon médicament contre la diarrhée. On les garde dans les familles pour que si les enfants ont de la diarrhée, on leur sert ça.
Eh bien, merci beaucoup pour cette recette. Le nénuphar, rien ne se perd, tout se transforme.
Exactement.
Ah, une belle découverte.
Mais c'est vrai que dans les régions de la vallée du fleuve, oui, on consomme beaucoup le nénuphar au niveau du saloum.
Dernière question que je voulais vous poser, mesdames. Est-ce qu'on peut faire du pain avec des céréales traditionnelles type mil, sorgho, fonio, ou c'est pas la peine d'y penser?
Alors, j'ai jamais testé encore le pain, mais je sais pas si les autres...
Vas-y, je t'en prie.
Mais le pain, enfin, c'est possible, sauf que c'est très dur à... Enfin, peut-être le pain au levain, je pense qu'au mil, c'est possible avec du pain au levain.
Faut pas qu'on s'attende à un pain qui va gonfler ou ce genre de choses.
Bon, Fatou Maïté, vous, c'est vraiment les desserts. Vous avez apporté un fondant au chocolat à base de...
Alors oui, donc un brownie à base de patates douces et de farine de riz, qui peut être effectivement remplacée également par de la farine de sorgho, parce que ce sont des farines qui n'ont pas vraiment de goût, donc qui n'altèrent pas effectivement le goût.
Et la patate douce, elle peut remplacer une farine?
Oui, elle remplace le beurre.
Ah, elle remplace
le beurre. Elle remplace le beurre. Et les œufs, et ça donne beaucoup de moelleux.
J'ose pas déguster là, j'attends le jour. Avec impatience, Nicolas Benita, Raphaël Lazizi vont nous rejoindre pour déguster tout ça pendant le journal. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés. 33 1 84 22 71 71, c'est notre numéro. Il change jamais du lundi au vendredi. On est en direct sur RFI. Merci à vous, chef Anto. On vous retrouve dans l'émission Le Goût du Monde de Clémence Denavy, samedi à 16h10, temps universel, consacré à la cuisine du désert.
Oui, exactement. Hein,
vous qui venez de la cuisine des forêts, ça sera formidable. Et merci bien sûr Fatou Maïté, aux délices gourmets, Aïssa Toumbaye, le blog Astou Cuisine, à retrouver bien sûr sur internet. Demain, on parle éducation, comme chaque vendredi. Merci à vous, les voisins et les voisines.